Germaine de Staël, Delphine. Lettres 23 à 26 comprises. Lettre 23. Delphine à Mademoiselle d'Albémar. Ce 5 juin. Je l'ai revue, ma sœur, je l'ai revue. Non, ce n'est plus l'impression de la pitié, c'est l'estime, l'attrait, tous les sentiments qui auraient assuré le bonheur de ma vie. Ah, qu'ai-je fait? Par quel lien d'amitié, de confiance me suis-je enchaînée? Mais lui, que pense-t-il? Que veut-il? Car enfin, pourrait-on le contraindre s'il n'aimait pas ma cousine, si... De quel vain sophisme je cherche à m'appuyer? Ne serait-ce pas pour moi qu'il romprait ce mariage? J'aurais eu l'air de l'assurer par mes dons, et je le ferais manquer par ce qu'on appellerait ma séduction. Je suis plus riche que Mathilde. On pourrait croire que j'ai abusé de cet avantage. Enfin, surtout, je blesserais le cœur de Madame de Vernon. Elle m'accuserait de manquer à la délicatesse, elle dont l'estime m'est si nécessaire. Mais à quoi servent tous ces raisonnements? Léonce m'aime-t-il? Léonce se dégagerait-il jamais de la promesse donnée par sa mère? Vous allez juger à quel signe fugitif j'ai cru deviner son affection. Ah, journée trop heureuse, la première et la dernière peut-être de cette vie d'enchantement, que la merveilleuse puissance d'un sentiment m'a fait connaître pendant quelques heures. On annonça M. de Montauville hier chez Mme de Vernon. Il était moins pâle que la première fois que je l'avais vu, mais sa figure conservait toujours le charme touchant qui m'avait si vivement attendri. Et le retour de ses forces rendait plus remarquable ce qu'il y a de noble et de sérieux dans l'expression de ses traits. Il me salua la première, et je me sentis fière de cette marque d'intérêt, comme si les moindres signes de sa faveur marquaient à chaque personne son rang dans la vie. Madame de Vernon le présenta à Mathilde. Elle rougit. Je la trouvais bien belle. Cependant, Louise, j'en suis sûre, lorsque Léonce, après l'avoir très froidement observée, se tourna vers moi, ses regards avaient seulement alors toute leur sensibilité naturelle. Monsieur Barton s'était assis à côté de moi sur la terrasse du jardin. Léonce vint se placer près de lui. Madame de Vernon lui proposa de passer la soirée chez elle. Il y consentit. J'éprouvai tout à coup, dans ce moment, une tranquillité délicieuse. Il y avait 3 heures devant moi, pendant lesquelles j'étais certaine de le voir. Sa santé ne me causait plus d'inquiétude, et je n'étais troublée que par un sentiment trop vif de bonheur. Je causai longuement avec lui, devant lui, pour lui. Le plaisir que je trouvais à cet entretien m'était entièrement nouveau. Je n'avais considéré la conversation jusqu'à présent que comme une manière de montrer ce que je pouvais avoir d'étendu ou de finesse dans les idées. Mais je cherchais avec Léonce des sujets qui tinssent de plus près aux affections de l'âme. Nous parlâmes des romans, nous parcourîmes successivement le petit nombre de ceux qui ont pénétré jusqu'aux plus secrètes douleurs des caractères sensibles. J'éprouvais une émotion intérieure qui animait tous mes discours. Mon cœur n'a pas cessé de battre un seul instant, lors même que notre discussion devenait purement littéraire. Mon esprit avait conservé de l'aisance et de la facilité, mais je sentais mon âme agitée, comme dans les circonstances les plus importantes de la vie. Et je ne pouvais le soir me persuader qu'il ne s'était passé autour de moi aucun événement extraordinaire. Chaque mot de Léon s'ajoutait à mon estime, à mon admiration pour lui. Sa manière de parler était concise, mais énergique. Et quand il se servait même d'expressions pleines de force et d'éloquence, on croyait entrevoir qu'il ne disait qu'à demi sa pensée, et que dans le fond de son cœur restaient encore des richesses de sentiments et de passions qu'il se refusait à prodiguer. Avec quelle promptitude il m'entendait, avec quel intérêt il daignait m'écouter. Non, je ne me fais pas l'idée d'une plus douce situation. La pensée excitée par les mouvements de l'âme, les succès de l'amour-propre, changés en jouissance du cœur. Oh, quels heureux moments! Et la vie en serait dépouillée. Je m'aperçus cependant que Mathilde, par ses gestes et sa physionomie, témoignait assez d'humeur. Madame de Vernon, qui se plaît ordinairement à causer avec moi, parlait à son voisin sans avoir l'air de s'intéresser à notre conversation. Enfin, elle prit le bras de Madame Dumarsais et lui dit assez haut pour que je l'entendisse « Ne voulez-vous pas jouer, madame? Ce qu'on dit est trop beau pour nous. » Je rougis extrêmement à ces propos. Je me levai pour déclarer que je voulais être aussi de la partie. Léonce m'en fit des reproches par ses regards. Monsieur Barton vint vers moi et me dit avec une bienveillance qui me toucha. Je croirais presque vous avoir entendu pour la première fois aujourd'hui, madame. Jamais le charme de votre conversation ne m'avait tant frappé. Ah, qu'il m'était doux d'être loué en présence de Léonce. Il soupira et s'appuya sur la chaise que je venais de quitter. Monsieur Barton lui dit à demi-voix, « Ne voulez-vous pas vous approcher de mademoiselle de Vernon ?»« De grâce, laissez-moi ici, » répondit Léonce. Ces mots, je les ai entendus, Louise, et leur accent surtout ne peut être oublié. Quand la partie fut arrangée, Léonce, resté presque seul avec Mathilde, vint lui parler. Mais la conversation me parut froide et embarrassée. Je ne savais ce que je faisais au jeu. Madame Dumarsais en prenait beaucoup d'humeur. Madame de Vernon excusait mes fautes avec une bonté charmante. Sa grâce fut parfaite pendant cette partie, et j'en fus si touchée que je ne me rapprochais plus de Léonce. Il me semblait que la douceur de Madame de Vernon l'exigeait de moi. Elle voulut me retenir pour causer seule avec elle. Je m'y refusai. Je ne veux pas lui cacher ce que j'éprouve. Qu'elle le devine, j'y consens. Je le souhaite peut-être. Mais je ne puis me résoudre à lui en parler la première. Ne serait-ce pas indiquer le sacrifice que je désire? Je m'en sentirais plus à l'aise avec elle si c'était moi qui lui dusse de la reconnaissance. Alors, je lui avouerais ma folie. Je m'en remettrais à sa générosité. Mais ce que je crains avant tout, c'est d'abuser un instant du service que j'ai pu lui rendre. Ma sœur, consultez votre délicatesse naturelle, non votre injuste prévention contre Madame de Vernon. Et dites-moi ce que je devrais faire, s'il m'aimait, s'il se croyait libre. Hélas, ce conseil sera peut-être bien inutile. Peut-être redoutais-je des combats qu'il m'épargnera. Lettre 24. Léonce à M. Barton à Mondeville. Paris, ce 6 juin. Vous êtes parti pour Mondeville par condescendance pour une seconde lettre de ma mère. Je vous prie, mon cher Barton, d'y rester quelque temps. Je me servirai de ce prétexte pour retarder toute explication avec Madame de Vernon sur mon mariage. Et je pourrais écrire à ma mère et peut-être trouver quelque moyen de me délivrer de sa promesse. mon cher maître, vous le sentez vous-même, j'en suis sûr, quoique vous vous soyez refusé à me l'avouer. J'ai connu Madame d'Albémare, je ne peux jamais aimer Mathilde. Pensez-vous que l'impression de la journée d'hier puisse s'effacer de mon cœur? Sans doute elle est belle, Mathilde, vous me l'avez dit, je le crois. Mais ai-je pu seulement la regarder? Je voyais, j'écoutais une femme comme il n'en exista jamais. C'est un être inspiré que Delphine. L'avez-vous remarqué lorsqu'elle s'adressait à moi? J'étais assis à quelques pas d'elle dans le jardin. Sa voix s'animait. Ses yeux ravissants regardaient le ciel comme pour le prendre à témoin de ses nobles pensées. Ses bras charmants se plaçaient naturellement de la manière la plus agréable et la plus élégante. Le vent ramenait souvent ses cheveux blonds sur son visage. Elle les écartait avec une grâce, une négligence, qui donnait à chacun de ses mouvements une séduction nouvelle. Croyez-vous, mon cher Barton, qu'elle parla avec plus d'intérêt à cause de moi? Vous m'avez dit que vous ne l'aviez jamais trouvée si aimable. Aurait-elle voulu me plaire? Cependant, elle m'a quitté si brusquement. Mais c'était dans la crainte d'affliger Madame de Vernon. Oh, sans doute, nos âmes s'entendraient si j'étais libre, si je pouvais m'exprimer de toute la force de mon émotion et de ma pensée. Mais il faudra se réprimer longtemps encore, et saura-t-elle me deviner à travers tant de contraintes? Elle, dont tout le charme est dans l'abondant, croira-t-elle aux sentiments contenus? Saura-t-elle que le cœur qui les renferme en est dévoré? Je n'imaginais pas qu'il fût possible, mon cher Barton, qu'une seule personne réunît tant de grâces variées, tant de grâces qui sembleraient devoir appartenir aux manières d'être les plus différentes. Des expressions toujours choisies et un mouvement toujours naturel, de la gaieté dans l'esprit et de la mélancolie dans les sentiments, de l'exaltation et de la simplicité, de l'entraînement et de l'énergie. Mélange adorable de génie et de candeur, de douceur et de force, possédant au même degré tout ce qui peut inspirer de l'admiration aux penseurs les plus profonds, tout ce qui doit mettre à l'aise les esprits les plus ordinaires, s'ils ont de la bonté, s'ils aiment à retrouver cette qualité touchante, sous les formes les plus faciles et les plus nobles, les plus séduisantes et les plus naïves. Delphine anime la conversation en mettant de l'intérêt à ce qu'elle dit, de l'intérêt à ce qu'elle entend. Nulle prétention, nulle contrainte. Elle cherche à plaire, mais elle ne veut y réussir qu'en développant ses qualités naturelles. Toutes les femmes que j'ai connues s'arrangeaient plus ou moins pour faire effet sur les autres. Delphine, elle seule, est tout à la fois assez fière et assez simple pour se croire d'autant plus aimable qu'elle se livre davantage à montrer ce qu'elle éprouve. Avec quel enthousiasme elle parle de la vertu! Elle l'aime comme la première beauté de la nature morale. Elle respire ce qui est bien comme un air pur, comme le seul dans lequel son âme généreuse puisse vivre. Si l'étendue de son esprit lui donne de l'indépendance, son caractère a besoin d'appui. Elle a, dans le regard, quelque chose de sensible et de tremblant qui semble invoquer un secours contre les peines de la vie. Et son âme n'est pas faite pour résister seule aux orages du sort. Oh, mon ami, qu'il sera heureux celui qu'elle choisira pour protéger sa destinée, qu'elle élèvera jusqu'à elle et qui la défendra de la méchanceté des hommes. Vous le voyez, ce n'est point une impression légère que j'ai reçue. J'ai observé Delphine, je l'ai jugée, je la connais, je ne suis plus libre. Je veux écrire à ma manière. Promettez-moi seulement, mon cher Barton, de faire naître des incidents qui vous retiennent un mois à Mondeville. Post-scriptum. Je reçois à l'instant une lettre d'Espagne qui m'est assez pénible. Ma mère me mande que Madame du Marsay, qui lui écrit souvent, comme vous le savez, l'a prévenue que Mademoiselle de Vernon avait une cousine très spirituelle, mais singulièrement philosophe dans ses principes et dans sa conduite, enthousiaste des idées politiques actuelles, etc., et dont la société ne vaut rien pour moi. Ma mère me recommande de ne point me lier avec Madame d'Albémare. C'est une prévention absurde que je parviendrai sûrement à détruire. Cependant, je suis indignée contre Madame du Marsay, et je choisirai la première occasion de le lui faire sentir. Lettre 25. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Ce 10 juin. Il m'a parlé, ma chère, avec intérêt, avec intimité. Mon Dieu, combien je m'en suis sentie honorée. Écoutez-moi, ce jour contient plus d'un événement qui peut hâter la décision de mon sort. J'avais dîné chez Madame de Vernon avec Madame du Marsay et son inséparable ami, Monsieur de Fierville. Je ne sais par quel hasard, à l'heure même où Léon s'accoutume de venir chez Madame de Vernon, elle mit la conversation sur les événements politiques. Madame du Marsay se déchaîna contre ce qu'il y a de noble et de grand dans l'amour de la liberté, comme elle aurait pu le faire en parlant des malheurs que la Révolution entraîne. Je la laissai dire pendant assez longtemps, mais quelques plaisanteries de Monsieur de Fierville contre un Anglais qui combattait les absurdités de Madame du Marsay m'impatientèrent. Monsieur de Fierville vient toujours au secours de la déraison de son ami en tournant en ridicule le sérieux que l'on peut mettre à quelque sujet que ce soit. Et il effraie ceux qui ne sont pas bien sûrs de leur esprit en leur faisant entendre que quiconque n'est pas un moqueur est nécessairement un pédant. J'eus envie de secourir l'Anglais nouvellement arrivé en France, que cette ruse intimidait, et j'entrai malgré moi dans la discussion. Madame du Marsay a retenu quelques phrases d'injure contre Rousseau qu'on lui fait débiter quand on veut. Madame de Vernon la provoqua, je lui répondis assez dédaigneusement. Madame du Marsay, piquée, se retourna vers Madame de Vernon et lui dit « Au reste, madame, quoi qu'en dise madame votre nièce, ce n'est pas une opinion si ridicule que la mienne. Madame de Mondeville, à qui j'écrivais encore hier sur tout ce qui se passe en France, est entièrement de mon avis. » En apprenant que madame du Marsay écrivait à madame de Mondeville, l'idée me vint à l'instant qu'elle lui parlait peut-être de moi, qu'elle lui manderait peut-être la conversation même que nous venions d'avoir, et qu'elle me peindrait comme une insensée à Madame de Mondeville, qui est singulièrement exagérée dans sa haine contre la Révolution de France. J'éprouvai un tel saisissement par cette réflexion qu'il me fut impossible de prononcer un mot de plus. Madame du Marsay me dit avec ce rire qui caractérise tous les amours-propres, dont la prétention est de feindre une assurance qu'ils n'ont pas. « Eh bien, madame, vous ne répondez rien ? Aurais-je raison par hasard ? Aurais-je réduit votre grand esprit au silence ?» On annonça Léonce. Quel vœu je faisais pour que cette fatale conversation ne recommençât pas ? Mais madame de Vernon, impitoyablement, appelle monsieur de Mondeville et lui dit « Est-il vrai que madame votre mère déteste Rousseau ? Madame d'Albémare, qui est très enthousiaste et de ses écrits et de ses idées politiques, les soutient contre madame du Marsay, qui s'appuie du sentiment de madame votre mère. » Je tremblais pendant ce discours, et j'attendais sans respirer la réponse de Léonce. Au nom de Madame du Marsay, il se retourna vers elle. Je ne voyais pas son visage, mais il y avait dans l'attitude de sa tête quelque chose de méprisant pour Madame du Marsay qui d'abord me rassura. Madame du Marsay, qui avait en face d'elle le regard de Léonce, en fut sans doute troublée, car elle articula faiblement ces mots. « Oui, monsieur, Madame votre mère est absolument de mon opinion. Elle me l'a écrit plusieurs fois. » « Je ne sais, madame, lui dit Léonce avec un son de voix que je ne lui connaissais pas, mais qui me pénétra de respect et de crainte, je ne sais ce que vous écrit ma mère, mais je voudrais ignorer ce que vous lui répondez. » « Laissons tout cela, dit assez vivement madame de Vernon, et allons nous promener dans mon jardin. » Je désirais extrêmement avoir l'explication des paroles de Léonce. J'espérais avec délices que sa colère venait de son intérêt pour moi. Mais j'avais besoin qu'il me le dît lui-même. Je restais naturellement de quelques pas en arrière dans la promenade. Je crus remarquer un moment d'hésitation dans Léonce. Cependant, il prit une feuille sur le même arbre où j'en cueillais une, et je commençai alors la conversation. « Ne vous dois-je pas quelques remerciements, lui dis-je, pour le secours que vous m'avez accordé ?»« Je vous défendrai toujours avec bonheur, madame, me répondit-il, quand même je me permettrai de ne pas vous approuver. » »« Et quel tort avais-je donc ? Lui dis-je avec assez d'émotion. » « Pourquoi, belle Delphine, reprit-il, pourquoi soutenez-vous des opinions qui révèlent tant de passions haineuses, et contre lesquelles, peut-être avec raison, les personnes de votre classe ont un si grand éloignement ? Pour la première fois, ma chère Louise, je me rappelais cette lettre à M. Barton que j'avais entièrement oubliée depuis que je voyais Léonce. L'accent de sa voix, l'expression de sa figure la retracèrent en ma mémoire, et je répondis avec plus de froideur que je ne l'aurais peut-être fait sans ce souvenir. « Monsieur, lui dis-je, il ne convient point à une femme de prendre parti dans les débats politiques. Sa destinée le met à l'abri de tous les dangers qu'ils entraînent, et ses actions ne peuvent jamais donner de l'importance ni de la dignité à ses paroles. Mais si vous voulez connaître ce que je pense, je ne craindrai point de vous dire que de tous les sentiments, l'amour de la liberté me paraît le plus digne d'un caractère généreux. « Vous ne m'avez pas compris, répondit Léonce, avec un regard plus doux, et qui n'était pas sans quelque mélange de tristesse. Je n'ai pas entendu discuter avec vous des opinions sur lesquelles le caractère de ma mère, et, si vous le voulez, les préjugés et les mœurs du pays où j'ai été élevée, ne me permettent pas d'hésiter. Je désirerais seulement savoir s'il est vrai que vous vous livriez souvent à témoigner votre sentiment à ce sujet, et si nul intérêt ne pourrait vous en détourner. » Ces questions sont bien indiscrètes et bien inconcevables, mais je vous crois cette intelligence supérieure qui pénètre jusqu'à l'intention de quelque nuage qu'elle soit enveloppée. Vous devez donc me pardonner. » Ces derniers mots attirèrent toute ma confiance. Et, me laissant aller à ce mouvement, je lui dis avec assez de chaleur, « Je vous atteste, monsieur, que je n'ai jamais pris à ses opinions d'autre part que celles qui résultent de la conversation. Elle promène l'esprit sur tous les sujets, celui-là revient plus souvent maintenant, et j'ai quelquefois cédé à l'intérêt qu'il inspire. Mais si j'avais eu des amis qui attachassent le moindre prix à mon silence, il l'aurait bien facilement obtenu. Comment une femme peut-elle être fortement dominée par des intérêts qui ne tiennent pas aux affections du cœur, ou qui n'y ramènent pas de quelque manière? Si mon frère, mon époux, mon ami, mon père jouaient un rôle dans les affaires publiques, alors toute mon âme pourrait s'y livrer. mais des combinaisons qui sont pour moi purement abstraites me persuadent sans m'entraîner. Je suis libre, tristement libre de ma destinée. Je n'ai plus de lien. Personne n'exige rien de moi. Mes opinions n'influent sur le sort de personne. Mes paroles ont suivi mes pensées. Il m'eût été plus doux de les taire si, par ce léger sacrifice, j'avais pu faire quelque plaisir à quelqu'un. « Quoi ? » me dit-il, avec un charme inexprimable. « Si vous aviez un ami qui désira vous rapprocher de sa mère, qui craignait tout ce qui pourrait s'opposer à ce désir, vous céderiez à ses conseils ?»« Oui, lui répondis-je, l'amitié vaut bien plus qu'une telle condescendance. » Il prit ma main, et après l'avoir portée à ses lèvres, avant de la quitter, il la pressa sur son cœur. Ah ! Ce mouvement me parut le plus doux, le plus tendre de tous. Ce n'était point le simple hommage de la galanterie. Léonce n'aurait point pressé ma main sur son noble cœur s'il n'avait pas voulu l'engager pour témoin de ses affections. Nous nous quittâmes tous les deux, alors, comme d'un commun accord. Je voulais conserver dans mon âme l'impression qu'elle venait d'éprouver, et je craignais un mot de plus, même de lui. Nous gardâmes l'un et l'autre le silence pendant le reste de la soirée. Madame de Vernon me retint lorsque tout le monde fut parti. Je crus qu'elle allait m'interroger. Quoique j'eusse voulu retarder de quelques jours encore l'aveu que je ne pouvais plus taire, j'étais décidé à ne lui point cacher les sentiments qui m'agitaient. Mais elle parut ou les ignorer, ou vouloir en repousser la confidence. Peut-être se servant d'un moyen plus cruel et plus délicat, croyait-elle enchaîner mon cœur par la sécurité même qu'elle me montrait. Elle s'applaudit du choix de Léonce pour sa fille, et, m'associant à tout ce qu'elle disait, elle répéta plusieurs fois ces mots. « Nous avons assuré son bonheur. Nous avons. Ah, quel nous dans ma situation !» Elle me rappela plusieurs fois que c'était à moi seule qu'elle devait l'établissement de sa fille. Elle me retraça tous les services que je lui avais rendus dans d'autres temps, et revenant à parler de Mathilde, elle m'entretint des défauts de son caractère avec plus de confiance que jamais. « Je le sais, me dit-elle, quoique sa beauté soit remarquable, jamais elle ne pourrait lutter avec avantage contre une femme qui chercherait à plaire. Elle ne s'apercevrait seulement pas des efforts qu'on ferait pour lui enlever ce qu'elle aimerait. Et surtout, elle ne saurait point le retenir. Si vous n'aviez point assuré son sort par de généreux sacrifices, personne ne l'aurait épousée par inclination. Elle ne devait pas se flatter de se marier jamais à un homme de la fortune et de l'éclat de Léonce. Pourquoi, lui dis-je, un autre n'aurait-il pas réuni des avantages à peu près semblables? Ce neveu de M. de Fierville auquel vous aviez pensé. Je ne connaissais pas Léonce alors, interrompit-elle. Comment une mère pourrait-elle comparer ces deux hommes lorsqu'il s'agit du bonheur de sa fille? D'ailleurs, le neveu de M. de Fierville a perdu son procès qu'il avait d'abord gagné. Il n'a plus rien. La succession de M. de Vernon doit une somme très forte à Mme de Mondeville, et comme je ne puis la payer sans ce mariage, je serais ruinée s'il manquait. Ne cherchez point à admirer, ma chère, le service que vous me rendez. Il est immense, et tout le bonheur de ma vie en dépend. Je me jetai dans les bras de Madame de Vernon. J'allais parler, mais elle m'interrompit précipitamment pour me dire que son homme d'affaires lui avait apporté le matin l'acte de donation de la terre d'Andely, parfaitement rédigé, comme nous en étions convenus, et qu'elle me priait de le signer pour que tout cela fût en règle avant de dresser le contrat de Léonce et de Mathilde. À ces mots, je sentis mon sang se glacer. mais un mouvement presque aussi rapide succédant au premier, j'eus honte d'avouer mon secret à Madame de Vernon, dans le moment même où j'allais m'engager au don que j'avais promis. Et je craignis de m'exposer ainsi à ce qu'il fût refusé. Je me levai donc pour la suivre dans son cabinet. En passant devant une glace, je fus frappé de ma pâleur, et je m'arrêtai quelques instants. Mais enfin je triomphai de moi, je pris la plume et je signai avec une grande promptitude, car j'avais extrêmement peur de me trahir. Et malgré tous mes efforts, je ne conçois pas encore comment Madame de Vernon ne s'est pas aperçue de mon trouble. Je sortis presque à l'instant même. Je voulais être seule pour penser à ce que j'avais fait. Madame de Vernon ne me retint pas et ne prononça pas un seul mot d'inquiétude sur mon agitation. Rentrée chez moi, je tremblais. J'éprouvais une terreur secrète, comme si j'avais mis une barrière insurmontable entre Léonce et moi. Je réfléchis cependant que la terre que je venais d'assigner à Mathilde servirait également à faciliter un autre mariage, si l'on pouvait l'amener à y consentir. Un autre mariage? Ah, puis-je me dissimuler que rien au monde ne consolera jamais personne de la perte de Léonce? Quel art Madame de Vernon n'a-t-elle pas employé pour entourer mon cœur par ces liens de délicatesse et de sensibilité qui vous saisissent de partout? Comme elle serait étonnée si je ne répondais pas à sa confiance. Elle a l'air de repousser bien loin d'elle cette crainte. Ah, si du moins elle voulait me soupçonner. Mais rien, rien ne peut l'y engager. Il faudra lui parler, il le faudra, j'y suis résolue. Dussé-je tout sacrifier, elle ne doit pas ignorer ce qu'il m'en coûte. Mais ce premier mot qui dira tout, que de douleur j'éprouverai pour le prononcer. Lettre 26. Delphine à Mademoiselle d'Albémare. Ce 20 juin. Vous êtes bien dangereuse pour moi, ma chère Louise. Je vous conjure de me fortifier dans mes cruels combats, et vous m'écrivez une lettre dans laquelle vous rassemblez tous les motifs que mon cœur pourrait me suggérer pour me livrer aux sentiments que j'éprouve. Vous voulez me persuader que Mathilde ne sera point malheureuse de la perte de Léonce. Vous me rappelez que Madame de Vernon était disposée à s'occuper d'un autre choix lorsque la vie de Léonce était en danger. Vous prétendez que j'ai fait assez pour mon ami en lui prêtant une fois 40 000 livres et en assurant par mes dons la fortune de sa fille. Mais vous n'aimez pas Madame de Vernon. Mais vous ne sentez pas combien l'affection que je lui ai témoignée, le goût vif que j'ai toujours eu pour son esprit et pour son caractère, me rendrait douloureux ce qui pourrait lui déplaire. Je l'aime depuis l'âge de 15 ans. Je lui dois les moments les plus agréables de ma vie. Tout ce qui tient à elle ébranle fortement mon âme. Je me suis accoutumée à croire que son bonheur importait plus que le mien. Il me semblait que mon âme orageuse n'était destinée qu'à souffrir. Mais je me flattais du moins que je préserverais de toutes les peines l'être doux et paisible qui se confiait à mon amitié. Je vais perdre 6 années d'affection et de souvenirs pour ce sentiment nouveau qui peut-être sera brisé par le caractère de Léonce. Je crains déjà même que vous n'en soyez convaincu par ce que je vais vous dire. Thérèse était hier plus tourmentée que jamais. On a commencé à mettre dans la tête de M. Dervin que les opinions politiques de M. de Serbellane était très dangereuse, et qu'il ne convenait pas à un défenseur de la cour de voir souvent un tel homme. Il le reçoit donc beaucoup plus froidement et ne l'invite presque plus. Thérèse en est au désespoir et voulait m'engager à avoir chez moi tous les jours Monsieur de Serbelane avec elle. Je m'y suis refusée. Je ne puis protéger une liaison contraire à ses devoirs. Je lui donnerai tous les soins qui peuvent consoler son cœur, mais si les circonstances la ramènent dans la route de la morale, je ne repousserai point le secours que la Providence lui donne. » Elle a écouté mon refus avec douceur, en me rappelant seulement la promesse que je lui avais faite si M. de Serbelane était obligé de partir. Je l'ai confirmée, cette promesse. J'avais quelque embarras de m'être montré si sévère. Hélas, en ai-je encore le droit? Thérèse se livra bientôt après à me peindre tous les sentiments de douleur qui l'agitaient. Elle ne savait pas combien elle me faisait mal. Je lui disais à voix basse quelques mots de calme et de raison, mais j'étais prête à me jeter dans ses bras, à confondre ma douleur avec la sienne, à me livrer avec elle à l'expression du sentiment dont je voulais la défendre. Je me retins cependant, je le devais. Il faut que je la soutienne encore, de ma main mal assurée. Cet après-midi, M. de Serbelane est venu me voir. Il m'a parlé de Thérèse, et ce n'est jamais sans attendrissement que je retrouve en lui le touchant mélange d'une protection fraternelle et de la délicatesse de l'amour. Il avait encore quelques détails essentiels à me dire. L'heure me pressait pour me rendre au concert que donnait Madame de Vernon. Il me proposa de m'accompagner. Il m'est arrivé plusieurs fois de faire des visites avec Monsieur de Serbelane. Vous savez que je ne consens point à me gêner pour ces prétendues convenances de société auxquelles on s'astreint si facilement quand on a véritablement intérêt à dissimuler sa conduite. Mais il me vint dans l'esprit que je pourrais déplaire à Léonce en arrivant avec un jeune homme, et j'hésitai à répondre. Monsieur de Serbelane le remarqua et me dit « Est-ce que vous ne voulez pas que j'aille avec vous ?» J'étais honteuse de mon embarras. Je ne savais que faire de cette apparence de pruderie qui convient si mal à un caractère naturel. Et ne pouvant ni dire la vérité, ni me résoudre à me laisser soupçonner d'affectation, j'acceptai la main que m'offrait Monsieur de Serbelane et nous partîmes ensemble. J'espérais que Léonce ne serait point encore chez Madame de Vernon. Il y était déjà. Je reconnus, en entrant, sa voiture dans la cour. Un des amis de Monsieur de Serbelane le retint sur l'escalier. Je le précédai d'un demi-quart d'heure, et je croyais avoir évité ce que je redoutais. Mais au moment où Monsieur de Serbelane entra, Madame de Vernon, je ne sais par quel hasard, lui demanda tout haut si nous n'étions pas venus ensemble. Il répondit fort simplement que oui. À ce mot, Léon se tressaillit. Il regarda tour à tour Monsieur de Serbelane et moi avec l'expression la plus amère. Et je ne sus pendant un moment si je n'avais pas tout à craindre. Monsieur de Serbelane remarqua, j'en suis sûr, la colère de Léonce. Mais voulant me ménager, il s'assit négligemment à côté d'une femme dont il ne cessa pas d'avoir l'air fort occupé. Léonce alla se placer à l'extrémité de la salle et me regarda d'abord avec un air de dédain. J'étais profondément irritée. Et ce mouvement se serait soutenu si, tout à coup, une pâleur mortelle couvrant son visage ne m'avait rappelé l'état où il était quand je le vis pour la première fois. Le souvenir d'une impression si profonde l'emporta bientôt, malgré moi, sur mon ressentiment. Léonce s'aperçut que je le regardais. Il détourna la tête et parut faire un effort sur lui-même pour se relever et reprendre à la vie. Mathilde chanta bien, mais froidement. Léonce ne l'applaudit point. Le concert continua sans qu'il eût l'air de l'entendre, et sans que l'expression sévère et sombre de son visage s'adoucît un instant. j'étais accablé de tristesse. Votre lettre, je l'avoue, avait un peu affaibli l'idée que je me faisais des obstacles qui me séparaient de Léonce. J'étais arrivé avec cette douce pensée. Et Léonce, en me présentant tous les inconvénients de son caractère, semblait élever de nouvelles barrières entre nous. Peut-être était-il jaloux, peut-être blâmait-il de toute la hauteur de ses préjugés à cet égard, une conduite qu'il trouvait légère. L'un et l'autre pouvaient être vrais, mais je ne savais comment parvenir à m'expliquer avec lui. Le concert fini, tout le monde se leva. J'essayai deux fois de parler à ceux qui étaient près de Léonce. Deux fois, il quitta la conversation dont je m'étais mêlée et s'éloigna pour m'éviter. Mon indignation m'avait reprise et je me préparais à partir lorsque Madame de Vernon dit à quelques femmes qui restaient qu'elle les invitait au bal qu'elle donnerait à sa fille jeudi prochain pour la convalescence de M. de Mondeville. Jugez de l'effet que produisirent sur moi ces derniers mots. Je crus que c'était la fête de la noce, que Léonce s'était expliqué positivement, que le jour était fixé. Je fus obligé de m'appuyer sur une chaise et je me sentis prête à m'évanouir. Léonce me regarda fixement et, levant les yeux tout à coup avec une sorte de transport, il s'avança au milieu du cercle et prononça ces paroles avec l'accent le plus vif et le plus distinct. « On s'étonnerait, je pense, dit-il, de la bonté que Madame de Vernon me témoigne, si l'on ne savait pas que ma mère est son intime amie, et qu'à ce titre elle veut bien s'intéresser à moi. » Quand ces mots furent achevés, je respirai, je le compris. Tout fut réparé. Madame de Vernon dit alors en souriant avec sa grâce et sa présence d'esprit accoutumée, « Puisque M. de Mondeville ne veut pas de mon intérêt pour lui-même, je dirais qu'il le doit tout entier à sa mère, mais je persiste dans l'invitation du bal. » La société se dispersa, il ne resta pour le souper que quelques personnes. Le neveu de Madame du Marsay, qui a une assez jolie personne, me demanda de chanter avec Mathilde et lui ce trio de Didon que votre frère aimait tant. Je refusai. Léonce dit un mot. J'acceptai. Mathilde se mit au piano avec assez de complaisance. Elle a pris plus de douceur dans les manières depuis qu'elle voit Léonce, sans qu'il y ait d'ailleurs en elle aucun autre changement. On me chargea du rôle de Didon. Léonce s'assit presque en face de nous, s'appuyant sur le piano. Je pouvais à peine articuler les premiers sons. Mais en regardant Léonce, je crus voir que son visage avait repris son expression naturelle, et toutes mes forces se ranimèrent lorsque je vins à ses paroles sur une mélodie si touchante. « Tu sais si mon cœur est sensible, épargne-le s'il est possible. » Veux-tu m'accabler de douleur ? La beauté de cet air, l'ébranlement de mon cœur, donnèrent, je le crois, à mon accent, toute l'émotion, toute la vérité de la situation même. Léonce, mon cher Léonce, laissa tomber sa tête sur le piano. J'entendais sa respiration agitée, et quelquefois il relevait pour me regarder. Son visage baigné de larmes. Jamais, jamais je ne me suis senti tellement au-dessus de moi-même. Je découvrais dans la musique, dans la poésie, des charmes, une puissance qui m'était inconnue. Il me semblait que l'enchantement des beaux-arts s'emparait pour la première fois de mon être, et j'éprouvais un enthousiasme, une élévation d'âme, dont l'amour était la première cause, mais qui était plus pur encore que l'amour même. L'air fini, Léonce, hors de lui-même, descendit dans le jardin pour cacher son trouble. Il y resta longtemps, je m'en inquiétais. Personne ne parlait de lui, je n'osais pas commencer. Il me semblait que prononcer son nom, c'était me trahir. Heureusement, il prit au neveu de Madame du Marsay l'envie de nous faire remarquer ses connaissances en astronomie. Il s'avança vers la terrasse pour nous démontrer les étoiles, et je le suivis avec bien du zèle. Léonce revint, il me saisit la main sans être aperçu, et me dit avec une émotion profonde, « Non, vous n'aimez pas Monsieur de Servelane, ce n'est pas pour lui que vous avez chanté, ce n'est pas lui que vous avez regardé. » « Non, sans doute, m'écriai-je, j'en atteste le ciel et mon cœur. » Madame de Vernon nous interrompit aussitôt. Je ne sus pas si elle avait entendu ce que je disais, mais j'étais résolue à tout lui avouer. Je ne craignais plus rien. On rentra dans le salon. Léon s'était d'une gaieté extraordinaire. Jamais je ne lui avais vu tant de liberté d'esprit. Il était impossible de ne pas reconnaître en lui la joie d'un homme échappé à une grande peine. Sa disposition devint la mienne. Nous inventâmes mille jeux. Nous avions l'un et l'autre un sentiment intérieur de contentement qui avait besoin de se répandre. Il me fit indirectement quelques épigrammes aimables sur ce qu'il appelait ma philosophie, l'indépendance de ma conduite, mon mépris pour les usages de la société. Mais il était heureux, mais il s'établissait entre nous cette douée familiarité, la preuve la plus intime des affections de l'âme. Il me sembla que nous nous étions expliqués, que tous les obstacles étaient levés, tous les serments prononcés. Et cependant, je ne connaissais rien de ses projets. Nous n'avions pas encore eu un quart d'heure de conversation ensemble. Mais j'étais sûre qu'il m'aimait, et rien alors dans le monde ne me paraissait incertain. Je m'approchai de Madame de Vernon et je lui demandai le soir même une heure d'entretien. Elle me refusa en se disant malade. Je proposai le lendemain. Elle me pria de renvoyer après le bal ce que je pouvais avoir à lui dire. Elle m'assura que, jusqu'à ce jour, elle n'aurait pas un moment de libre. Je m'y soumis, quoiqu'il me fût aisé, d'apercevoir qu'elle cherchait des prétextes pour éloigner cette conversation. Soit qu'elle en devine ou non le sujet, ma résolution est prise, je lui parlerai. Quand elle saura tout, quand je lui aurai offert de quitter Paris, d'aller m'enfermer dans une retraite pour le reste de mes jours, afin d'y conserver sans crime le souvenir de Léonce, elle prononcera sur mon sort, je l'en ferai l'arbitre, et quel que soit le parti qu'elle prenne, je n'aurai plus, du moins, à rougir devant elle. Ma chère Louise, je goûte quelque calme depuis que je n'hésite plus sur la conduite que je dois suivre.